Bonjour et bienvenue à Point de vue, le podcast 100% cinéma à Montréal, épisode 595. Mon nom est Paul Andrio et je suis avec mes collègues
Rémi Fréchette
et Pascal Plante.
Petit tour d'actualité rapide cette semaine, parce qu'il y a quand même une couple de trucs assez incroyables qui se passent dans le monde, le merveilleux monde de la cinéphilie montréalais et même canadien. Canopy, est-ce que ça vous dit quelque chose, les gars?
C'est quoi déjà ça?
Canopy, c'est un service de streaming qui est plus axé vers la recherche, les étudiants, les institutions. Ah. Et BenQ vient d'annoncer un partenariat avec Canopy. Donc, n'importe quel citoyen de Montréal qui détient une carte valide gratuite de la BenQ peut connecter son compte sur le site avec le site de Canopy. Et c'est un service qui propose plus de 30 000 films d'un peu partout. Beaucoup de classiques, beaucoup de films de Criterion, beaucoup de documentaires, mais également des nouveautés. Notamment, là, j'ai mis dans ma... On peut se faire une petite watchlist. Là.
C'est un service de recherche. Fait que c'est pour trouver des livres vers des films ou...
Non, c'est l'accès aux films. Là. C'est comme un Netflix, mais qui est plus axé sur les institutions. Et eux, en fait, c'est dans le fond, c'est BenQ qui paye pour que tu regardes des films. Mais il y a aussi comme des nouveautés, puis des films, tu sais, grand public et tout ça. Là, je me suis fait justement une watchlist. J'ai racheté notamment Her Smell de Alex Ross Perry. Qui est disponible là. Et on a le droit donc à 4 visionnements gratuits par mois grâce à notre carte de membre de la BenQ. Donc, je vous suggère d'aller faire un tour. Ça marche très bien. Moi, ça se connecte aussi. Il y a une application Apple TV. Donc, je peux connecter ça directement, lier mon compte.
Fait que si t'as ta carte de même, t'as accès à 4 films de même par mois gratos.
Ouais, gratos.
Tant que je renouvelle ma carte de bibliothèque. Là.
Ouais, c'est ça. C'est moi aussi, il faudrait que je renouvelle. C'est ça. Moi, j'allais
mais je sais pas si vous faisiez ça. Tes frais de retard, Rémi, là, de ta location d'American Movie. Là.
Ton petit DVD là, que t'as jamais ramené. Non, mais moi, j'allais beaucoup me chercher des DVD-là, fut un temps. Là. Ça fait vraiment longtemps, par exemple, parce qu'effectivement, moi, ma carte, elle est échue, mais c'était le fun là, d'aller fouiller dans les DVD. C'était comme le dernier... Ben, tu sais, c'était pas un club vidéo, mais c'était tout comme. Hein, c'était un peu le même film.
Des trucs super rares, là. C'est un peu la boîte noire, équivalent de la boîte noire, mais gratis.
Ouais. Ben, c'est une bonne nouvelle, Paul. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle d'actualité.
Tout à fait. Et parlant d'un truc gratuit et inédit... Non, peut-être pas gratuit. Parlant d'un truc inédit et parlant d'Alex Ross Perry.
Ah, oui.
Le cinéma moderne vient d'annoncer une mini-rétrospective en présence d'Alex Ross Perry à la fin du mois d'août.
C'est Benjamin Pelletier qui va être content de ça. Lui, il est vraiment fan. Ben, toi aussi, Paul, tu aimes beaucoup Alex.
Ben, oui, tout à fait. Et en plus de ses films, il va présenter un atelier de scénarisation. Donc ça, c'est quand même très, très cool comme initiative. Alors, à tous les scénaristes et cinéastes en herbe qui auraient envie d'avoir des conseils d'Alex Ross Perry, toutes les informations sont sur le site cinémamoderne.com. Et j'ai hâte justement, il y a notamment son film The Color Wheel, qui est comme pas si facile que ça à trouver, son premier long-métrage. Donc j'ai très hâte de voir ça.
C'est fou pareil, parce que ce cinéaste-là, il a seulement comme émergé au début de la décennie. Hein. Tu sais, là, on est inexorablement, on s'enligne vers la fin de la décennie. Hein. Donc avec ça viennent des réflexions. Puis tu sais, lui, c'est quand même bon film, mauvais film, année après année, il est comme là. Moi, Her Smell, j'ai eu beaucoup de misère avec le film, pour être bien honnête, là, je n'en ferai pas une review nécessairement ici, maintenant, mais quand même, je trouve vraiment que c'est comme un genre d'incontournable, puis comme son premier long-métrage, c'est en 2011, justement, The Color Wheel, c'est un film de cette décennie-ci, mais on dirait qu'il y a eu le souffle de quelqu'un que ça fait, je sais pas, moi, 20 ans qu'il a une carrière au moins. C'est un peu comme une dissonance cognitive là, dans ma tête par rapport à la longévité de la carrière d'Alex Ross Perry en ce moment, là. C'est comme un jeune cinéaste, mais comme d'expérience.
Moi, j'ai rien vu pendant tout. Ça fait-tu dans le genre dans le Mumble Corps, ce mouvement-là un peu?
Oui. Il affectionne particulièrement la pellicule. Et puis, moi, je trouve aussi qu'on sent une filiation avec le jeune cinéma de Woody Allen, peut-être.
Okay.
Ou Noah Baumbach. Toute un peu cette famille de pensées-là sur des personnages un peu intello, new-yorkais, qui vivent des drames intérieurs et tout ça. Là. Mm-hmm. Mais c'est très très cool. Moi je conseille Listen Up Philip, qui est vraiment selon moi son meilleur film, qui est malheureusement pas dans la rétro de cinéma moderne, mais qui est disponible en location sur les différentes plateformes. Sinon, autre nouvelle très cool, ça va être la deuxième année consécutive que Point de vue participe à un partenariat avec Locarno et Festival Scope.
Big shot.
Festival Scope, autre plateforme en ligne super cool dont je vous conseille de visiter et de mettre dans vos favoris. Et en fait, c'est que comme l'an dernier, ça va être une dizaine de films qui seront accessibles genre le lendemain de leur première mondiale à Locarno. Et donc, il y a des billets en quantité limitée disponibles sur cette plateforme-là pour le voir en ligne. Puis là, bon, c'est encore un peu sous embargo, mais d'ici à ce qu'on publie le podcast, j'imagine que ça va être pas mal dévoilé. Mais notamment, tu sais, le nouveau Denis Côté, Wilcox, sera de la partie. Fait qu'on, même les, pas juste nous, les critiques, là, mais les auditeurs qui nous écoutent en ce moment, vous pourrez justement aller louer Wilcox le lendemain de sa première mondiale. Fait que ça, c'est quand même une super cool initiative, je trouve. Et puis,
c'est fou,
on est très content de faire partie de ça.
C'est fou ça, mais c'est aussi fou Denis Côté, tu sais, qui commence son année à Berlin
Répertoire des villes disparues.
Ouais, c'est ça, excuse-moi, j'ai eu un brain fart total. Ouais, Répertoire des villes disparues. Puis, tu sais, là, on est comme un peu plus que la moitié de l'année plus tard, tu sais, moins de 6 mois plus tard. Il va avoir un film comme un autre long à Locarno, puis là, bing bang, il va comme être accessible au public, tu sais. C'est assez fou, là.
Ouais, il shoot combien de films par année, là? Il est en feu, là.
Cette année, c'est particulièrement impressionnant.
Mais tu parlais de cinéastes, justement, qui définissent la décennie, puis bien que Denis Côté ait commencé sa carrière avant 2010, mais reste que c'est quand même, je pense, un des Québécois incontournables de la décennie, si on réfléchit. Puis même de cinéastes tout court, là, tu sais. Donc, voilà. Alors, ça fait un peu le tour rapide des actualités, parce qu'on a plein de choses à dire, notamment sur Fantasia, le festival qui s'est conclu.
Je me demandais justement si ça comptait dans les actualités ou pas, là, mais...
On va faire le tour de ça. Un festival, donc, qui s'est conclu vraiment sur un film du tonnerre avec Promare, film japonais d'animation absolument gargantuesque et époustouflant, qui, selon moi, le conclut beaucoup mieux qu'il a ouvert ce festival.
Ouais.
Et toi... Non, mais je veux dire, c'est vraiment... Puis tant mieux, parce que j'étais un peu sceptique là, au dernier podcast, puis j'ai un peu comme mes réserves par rapport à l'annonce, peut-être. Mais à force de visionner des films, c'est qu'on a eu plusieurs surprises, plusieurs trucs super cool qu'on a vus.
Ouais, puis c'est souvent des petits trucs qui sortent un peu de nulle part, puis c'est pour ça qu'on commence tous les festivals en se disant... Bon, est-ce que cette année, il manque le gros hit ou le gros truc? Puis on finit les festivals, puis on est toujours bien satisfait parce qu'il y a tellement d'options, il y a tellement de films cool, puis de petites découvertes cachées dans le festival, qu'au final, là, ça a valu la peine. Puis là, l'année prochaine, on va voir le line-up, puis on va faire « Ah, est-ce qu'il manque un gros film? » Puis on va encore avoir autant de fun. Là. Je pense que c'est un pattern qui revient chaque année. Là. Mais tu sais, c'est aussi de savoir que... Pour des festivals comme Fantasia, il y a beaucoup de choses qui se décident de dernière minute, puis même les organisateurs, un mois avant, on ne sait pas exactement comment ça va se dérouler. Il y avait plein d'invités qui étaient en stand-by, qui finalement sont pas venus. Fait que tu sais, tout peut changer. L'année que Robert Pattinson était venu, je pense qu'il avait décidé 3-4 jours avant le screening qu'il allait être sur place à Montréal. Tu sais. Fait que c'est sûr que c'est des beaux bonus, mais c'est tous des trucs incertains. T'sais, cette année, il y avait, pour parler des coulisses, là, mais il y avait Liam Hemsworth qui était... C'était presque confirmé qu'il allait venir, puis finalement, il a annulé, il a pas pu venir. Mais tu sais, il y a comme souvent une couple de gros noms qui sont maybe, puis c'est ça, là, on sait pas où ça va nous mener, là, mais ouais, Promare, j'avais entendu des bons trucs. Paul, si tu veux bondir là-dessus, là.
Ben oui, mais en fait...
Tu l'as-tu vu, toi?
Oui, je l'ai vu, c'est ça, j'étais là à la clôture, et puis c'est quand même cool, puis là, tu parles d'invités des fois qui se pointent pas. Il y avait un court-métrage d'animation japonais également en ouverture, The Girl from the Other Side, produit par les productions IG, c'est quand même un studio assez important d'animation au Japon, et film de 10 minutes, là, fait vraiment comme de manière quand même assez artisanale, puis on n'est pas dans la grosse production là, intense. Puis les deux co-cinéastes étaient là, présents avec le producteur. C'est quand même cool de faire le puis tu sais, le Japon, c'est quand même la moitié de la planète, là, de faire le tour du monde pour présenter un film de 10 minutes, là, presque sans dialogue. Donc, props à eux et props à l'équipe de Fantasia et à toute l'équipe de derrière le film Promare. Parce qu'apparemment, c'est comme ça
qu'il faut prononcer. Comment t'appelles ça? Excuse-moi, je l'avais pas vu passer, plus qu'il faut... Moi, j'étais un peu...
Promare. Okay. Promare et c'est production du studio Trigger. Je ne connaissais pas, mais quand le logo est apparu à l'écran, il y a eu de nombreux cris dans la salle, donc on voit qu'ils ont une fanbase assez importante. Et c'est une espèce de film d'animation japonais, tu sais, qui est comme typiquement japonais, où ça commence, c'est déjà exagéré, puis ça fait juste comme de plus en plus aller genre dans l'absurdité de manière exponentielle, là, typiquement japonaise, où le destin du monde est menacé, mais même des toutes les genre, différentes dimensions cosmiques qui existent. Mais en gros, c'est une équipe de quand, genre sortes de pompiers qui doivent arrêter une espèce de feu, mais qui est comme un feu vert qui serait en partie organique dans un futur proche où il y a des gens qui sont soudainement ont des combustions spontanées à cause de ce feu vert-là. Donc, comme il y a eu plein de mesures qui ont changé la société, notamment des espèces de barrières anti-feu dans tous les bureaux. Dès qu'il y a quelque chose, il y a comme plein de glaces qui apparaissent de partout. Puis dans le fond, c'est vraiment juste un prétexte pour montrer des scènes d'action absolument kinétiques. Puis tu sais, je sais pas si vous étiez là quand je l'avais fait jouer chez nous, mais j'ai écouté un film récemment d'animation qui s'appelle Red Line.
Ah oui, Red Line, c'était fou. J'étais là.
Ouais,
ça m'a assez marqué. C'est un film, une fois vu, jamais oublié, là, j'ai l'impression. Ouais. C'est assez effréné dans tous les sens du terme, là, ce film-là.
Ouais, c'est vraiment dans la même veine où l'histoire est moins importante qu'un prétexte à explorer ce qu'est l'animation en tant que telle, puis de proposer des choses, des espèces de scènes absolument exagérées, mais c'est ça que parle l'animation versus le live action, tu sais.
Ben oui.
Puis tu sais, des cascades aussi impressionnantes soient-elles, sont quand même régies par les lois de la physique. Tandis que là, ils peuvent vraiment se donner à cœur joie, puis vas-y que j'envoie un méca robot à travers un gratte-ciel pour qu'il se mette à combattre un dragon en flamme verte, là, tu sais. Donc, c'est un film qui est dur à décrire parce qu'il faut vraiment être là pour le voir, puis si possible, sur un grand écran avec le son crinqué à 11. Là.
Ouais, ces films-là incarnent bien une citation de Norman McLaren qui m'est tout le temps assez resté pour certains types de films d'animation. T'sais, il dit pour lui, c'est l'art de l'animation, c'est pas le dessin animé, c'est l'animation dessinée plutôt. C'est-à-dire, c'est pas à propos de l'objet tant que c'est à propos vraiment du mouvement puis de la façon comment cet objet-là va se mouvoir, tu sais, ça là, l'animation. Puis je trouve qu'il y a une certaine frange de l'animé japonais qui cadre bien dans cette définition-là, en fait, tu sais. Parce qu'on peut reprocher souvent, comme quand on voit ou tu sais, l'esthétique manga, finalement c'est un canevas blanc dans un sens, tu sais, je veux dire, les personnages, ben oui, ils finissent par se ressembler, mais c'est... Il faut vraiment voir ça, je pense, comme un canevas blanc d'une certaine façon, parce que les histoires sont complètement out there, mais c'est surtout le mouvement dans ces films-là, c'est ça qui en fait comme une expérience viscérale, quelque chose comme qui défraîné, puis haletant, puis vraiment trippant, au final.
Puis le même reproche pourrait être fait à l'animation occidentale. Tu regardes les films de DreamWorks avec des animaux cute. Il y a des espèces de formules qui existent, effectivement. Mais pas que je suis un spécialiste, mais pour avoir quand même vu pas mal de films d'animation, celui-là en particulier se détache du lot, comme Redline se détachait à l'époque, il y a une dizaine d'années déjà.
Ah, je regrette tellement, là. Moi, j'étais allé voir The Relative World à Fantasia. J'essaie toujours d'aller voir une animation japonaise, puis c'était le Snooze Fest, là. J'étais comme en train de m'endormir. Tu sais, il y avait une coupe de combats épiques, là, une grande finale, puis l'animation est belle, mais on dirait que c'est plus suffisant que juste. C'est bien dessiné puis c'est bien animé là, l'histoire c'était vide là, puis il y avait pas beaucoup d'action là, j'étais un peu découragé là, mais ben content si Pro Mario au moins rempli son mandat là.
Mais on dirait un film que c'était comme, tu sais, comme il y avait pendant plusieurs années il y avait le prix du film le plus énergique Gourou là à Fantasia. On dirait que c'est comme c'est quasiment un film, c'est comme hey guys, là cette année là on va remporter le prix du film le plus énergique Gourou à Fantasia, puis c'est ça notre objectif.
Ils sont comme fuck, il y a plus le prix.
Mais la salle était crinquée là, puis c'était quasiment comme un concert là, tu sais. On applaudissait, c'était le fun, il y avait vraiment comme une énergie, puis c'est sûr que t'sais, juste le premier 15 minutes, là, c'est une ouverture absolument hallucinante. Après ça, il y a quand même un peu des temps morts, puis il y a quand même des moments... puis j'avoue que j'ai pas tellement accroché à l'histoire ou au personnage plus qu'il faut, mais les scènes d'action, puis dès qu'il y a du mouvement, des poursuites ou des trucs comme ça, c'est vraiment impressionnant. Puis c'est un style d'animation qui est unique. T'sais, j'ai comme jamais vu un film qui ressemble à ça. Donc ça, c'est quand même assez dur d'imposer une espèce de patte, là. Un peu comme... bon, là, ça, c'est un autre niveau. Là. Ça, c'est vraiment un film, un classique, selon moi. Mais tu sais, la princesse Takahata, là...
Kaguya.
Kaguya.
Ouais. C'est juste génial.
Que, justement, ouais. Une espèce de style qui crée pour ce film-là qui est vraiment cool. Là.
Mais Takahata, il en a fait d'autres des intéressants comme ça. Il a fait Mes voisins, les Yamada aussi. Qui, si vous faites juste le googler, juste pour regarder une image de Neighbors, voyons, Yamada. Là, en tout cas, bref, Mes voisins, Yamada. C'est vraiment trippant, en fait. Takahata, il explorait quand même un petit peu ce que peut-être on reprochait. On pourrait possiblement reprocher à Miyazaki, mais tu sais, Miyazaki, en même temps, c'est tellement l'imagination foisonnante qui fait que ces films se démarquent. Tu sais, je veux dire, c'est les personnages, puis c'est l'univers, puis c'est mais plus que comment que la façon, mettons, comment c'est animé, j'oserais dire, mettons. Puis quand t'as les deux, ben des fois, ça fait des flamèches puis des films assez pétés. Là. Fait que, ben cool.
Sinon, parmi les autres petits films de la sélection qu'on a pu voir, des découvertes, des espèces de films qu'on n'aurait pas pu voir en dehors d'un cadre de festival, il y a Jessica Forever, le premier long-métrage du duo Caroline Poggi et Jonathan Vinel, qui sont donc des jeunes cinéastes français, qui avaient coécrit le manifeste dont on avait déjà parlé auprès de Bertrand, aux côtés de Bertrand Mandico.
Ah, oh, ça fait tellement de sens!
Ouais.
Oh my God, OK!
Ça fait partie de cette école-là.
En fait, moi, je ne l'ai pas vu au festival, puis c'est les gars qui m'ont dit « Regarde ça avant le prochain podcast ». Puis je savais vraiment pas à quoi m'attendre. J'avais pas eu vraiment de retour de ce film-là, Fantasia. Puis je me suis claqué ça il y a 2-3 jours. Puis aïe, aïe, c'est un mood, hein?
Ouais. Ben écoute, on va en parler, là. Ben, tu nous fais un petit synopsis, Paul, avant qu'on l'attaque?
Ouais,
synopsis rapide. J'ai peur que tu me demandes à moi de faire un synopsis.
Dans un futur proche, dans une France qui ressemble à la nôtre, mais peut-être plus exagérée, un groupe d'orphelins tente de survivre tant bien que mal, mené par la chef Jessica. Et dans le fond, il y a encore une société qui existe, il y a clairement des gens qui ont le droit de se promener puis de vivre de manière normale, d'aller dans les centres d'achat, etc. Mais ces orphelins-là sont comme traqués par la société et par une...
Par des drones,
c'est ça, qui veulent les éliminer.
Ben, puis
donc,
orphelin,
c'est à peu près ça le pitch.
Orphelin, c'est un peu un mot doux pour dire que c'est des renégats, c'est des anciens, c'est des repris de justice, c'est des jeunes mésadaptés, tu sais, puis c'est ça, puis cette Jessica-là, elle joue c'est un peu une genre de figure divine, hein, elle est vraiment, ben, déifiée.
C'est comme une secte, là, tu sais.
Ben, d'une certaine façon, puis il faut un peu en parler, là, elle est jouée par Aomi Moyok, son nom, puis elle, on l'avait vue notamment dans le Love de Gaspard Noé, là, si vous l'avez pas oublié déjà, là, ce film. Mais déjà, genre, dès qu'on voit sa gueule...
J'aime le petit tac, là, genre, juste comme en passant.
Une petite tape dans, ouais. Une petite tape sur la fesse à Gaspard. Bon, puis... première affaire qui saute aux yeux, tu sais, c'est à quel point, justement, ben... Elle fait vraiment une espèce d'héroïne d'un film de Luc Besson ou, tu sais, carrément Resident Evil, là, tu sais, c'est une espèce de Mila Jovovich-ish, là, tu sais. Puis, donc, elle est comme déifiée dans une certaine frange de cinéma qui objectifie, tu sais, les femmes badass d'une certaine façon. Puis ce film-là, c'est qu'il réfléchit un peu là-dessus, je trouve. Puis déjà, l'esthétique jeu vidéo, on va en parler, je pense, de front. C'est un petit peu ça qui nous permet d'adhérer à la proposition. Parce que
tu veux dire l'esthétique jeu vidéo?
Oui, ça utilise des codes. Tu sais, hey, juste le choix de la typographie pour le titre, là, on dirait que t'es dans Diablo 2.
Oui, c'est ça.
Non, mais tu sais, puis on dirait qu'ils s'en crissent que les effets spéciaux fassent un peu cinématique de jeu de 2008, là, tu sais. Je sais pas, c'est il y a pas de complexe par rapport à... Ça essaie pas d'être Hollywood, là, dans toute son espèce de perfectionnisme d'effets spéciaux grandiloquents, tu sais. Je sais pas, ça assume un côté artisanal, mais qui me ramenait dans une esthétique... Comme je disais, là, c'est ça, jeu vidéo, là, carrément.
Mais c'est pas l'esthétique, pas la réalisation, pas la cinématographie. C'est vraiment comme au niveau des esthètes, puis au niveau de, des choix de plans, c'est tellement Kubrick, là, de la façon que c'est cadré, là, des longs plans ultra tableaux. Il y a même un moment où il y a la toune de Clockwork Orange là, qui joue. Là, les références sont assez on the nose là, avec Kubrick. Là, parce que c'est pour ça que j'ai comme réagi à ton truc jeu vidéo. Je comprends ce que tu veux dire au niveau des effets, mais au niveau du pacing, puis au niveau des...
Non.
Je trouvais que c'était plus entre Kubrick puis quasiment la nouvelle vague. Là,
ouais,
comme... Au niveau des dialogues, là, c'est très... C'est de l'acting ton, là,
tu sais, oui, non, mais oui, absolument.
Vraiment froid, il y a comme... Mm-hmm. Ben, c'est pour ça que je vois le lien, là, tout de suite avec, avec les garçons sauvages, là, où le côté esthétique assumait beaucoup ce côté vieux film. Là, on est dans du Kubrick avec de l'acting figé. Je sais pas, c'est, le mot des... Je sais pas si j'ai trippé ou si j'ai pas aimé ça, là, c'est tellement... je l'ai regardé il y a 2-3 jours, puis je suis encore confus, là.
Ben, c'est sûr que c'est une proposition qui est forte.
De quoi? Oui, oui, vas-y.
Ah ben, j'allais dire, c'est une proposition esthétique qui est forte et je pense qu'on adhère ou pas dès le départ parce que, justement, le niveau de jeu, notamment, qui est vraiment particulier, qui me faisait un peu penser à du Robert Bresson, où on est tout on dirait qu'on enlève, tu sais. On est vraiment dans le retrait d'émotion, le retrait. On est tout en chuchotement beaucoup. Tu sais, les personnages, dans le fond, qui sont tous des tueurs, toujours armés jusqu'aux dents. Prêts au combat n'importe quand, qui passent leur journée à s'entraîner, puis à tuer le temps ensemble finalement, mais toujours comme à l'affût, là, comme des espèces de loups traqués. Là, tu sais. Et donc, tu sais, c'est un style de jeu, puis un style de proposition qui est quand même assumé dès le départ. Et donc, ça fait qu'on adhère ou non, mais reste que ça installe une certaine ambiance, une certaine... Moi, j'oserais dire une poésie, en fait. Puis, comme je disais un peu à Pascal en sortant de la salle, j'ai l'impression que c'est la première fois qu'on voit un cinéma qui... C'est pas un cinéma qui s'adresse aux gamers, mais c'est vraiment un cinéma de gamers, tu sais. Des gens qui, pour la première fois, on dirait, ont troqué leur manette pour une caméra, tu sais. Puis qu'est-ce que ça influence? Parce que, tu sais, toutes les adaptations de jeux vidéo puis les trucs qu'on a eus, tu sais, ça venait, dans le fond, de producteurs hollywoodiens de 50 ans qui sont pas vraiment des gamers, tu sais. Puis là, t'as vraiment l'impression de voir des gens qui ont la mentalité puis les réflexes, tu sais. Puis à un moment donné, juste dans la manière quand les gens, des fois, ils s'entraînent entre eux... puis plein de références par-ci par-là, comme un des personnages qui s'appelle Raiden, qui est un nom d'un personnage de jeu vidéo dans Metal Gear Solid.
Mortal Kombat, me semble.
Mortal Kombat également. Puis, c'est ça, il y a comme plein de références comme ça. Puis, et c'est un peu. Puis évidemment, on peut ensuite lire toute la métaphore de l'espèce de France bourgeoise qui s'insurge contre les immigrants, puis contre les étudiants, tout ça, puis la jeunesse un peu qui est désabusée, qui est comme pas, qui voit pas un avenir qu'elle peut avoir dans cette société. Donc, mais, je trouve que c'est un film qui a plusieurs couches, puis qui est le fun à réfléchir. Ensuite, est-ce que c'est un film que tout le monde va adhérer? Absolument pas. Là,
ben, c'est zéro accessible.
Ça divise au bout. Il est sorti en France, puis les critiques, c'est vraiment divisé. Puis je pense honnêtement, c'est un espèce de film générationnel où les jeunes sont peut-être beaucoup plus susceptibles d'apprécier que des gens qui n'ont jamais vraiment joué à des jeux vidéo, été en ligne, chatté. Il y a comme tout un univers, je pense, qui parle vraiment d'une certaine génération.
Ouais. Mais en même temps, si tu me dis un cinéma de jeux vidéo, moi, je m'attends à quelque chose d'ultra fast-paced.
Non, mais
comme...
c'est ça.
C'est ça l'affaire, c'est que je pourrais pas vraiment recommander ça à quelqu'un qui trippe ses jeux vidéo avec ça, en disant ça comme ça, parce que j'ai l'impression qu'il s'attendra pas à ça. Là. Moi, ça me rappelait, là, c'est pour toi que je dis ça, Pascal, mais ça me rappelait l'enfance de Jeanne d'Arc, vraiment là, dans le genre de pacing, de dialogue. Bon, j'ai pas aimé l'enfance de Jeanne d'Arc, mais ça, j'avoue que j'ai quand même aimé ça. Là, si tu restes scotché, puis tu peux pas comme te détacher de ça, là, ton esprit fait juste travailler tout le temps, essayer de décoder le film, puis mais ouais, c'est...
Mais c'est ça, mais vous trouvez pas aussi que c'est super beau de voir cette bande de garçons tueurs comme être ultra sincères, sans aucune trace d'ironie, puis toujours se dire genre « Ah, est-ce que tu veux dormir avec moi? » Puis tu sais, il y a comme une tendresse là, qui est comme... Ou à un moment donné, il y a un personnage qui meurt, puis là, il y a des gens qui sortent des haut-parleurs dehors, puis là, il va comme avoir une espèce de chanson qui va donner une espèce de catharsis pour le groupe, et puis tout le monde va se mettre un peu à justement vivre des émotions, puis un peu comme peut-être sortir les valves, là, puis je sais pas, il y a quoi de beau dans une espèce de cinéma qui est sincère, puis qui est pas ultra ironique, puis ultra toujours comme métatextuel, puis on est au-dessus de ça, tu sais, il y a comme une sincérité qui fait du bien là-dedans.
Oui, non, t'as raison. Puis tu sais, tu viens de nommer une des scènes clés, puis il y en a comme plusieurs. C'est que je trouve que, effectivement, moi, en vivant le film comme une expérience, je peux pas dire que j'adhérais à chaque seconde de chaque minute. Mais je pense que le film, c'est pas son but, nécessairement, de plaire à tout prix et en tout temps. Par contre, tu sais, effectivement, les scènes fortes me raccrochaient constamment. Puis on dirait que les moments entre, tu sais, ce sont des longues parenthèses, puis on flotte jusqu'au prochain moment feu d'artifice, puis ensuite on flotte encore, puis ça en fait effectivement une expérience, puis qui est voué à diviser, puis juste, regarde, j'ai la page IMDB dans la face, puis il est à 4.7 sur 10, puis je disais en blague, ça doit être un des meilleurs films en bas de 5 sur 10 sur IMDB, je veux dire, je peux pas croire. Parce que sans nécessairement être un film que, comme je disais, que je donnerais peut-être pas un 8, je donnerais un bon 7 fort, tu sais. Mais effectivement, on dirait qu'à 4, tu sais, c'est au rayon des navets, là, selon les votes d'utilisateurs, puis alors que, je veux dire, clairement, on n'est pas là lorsqu'on visionne le film, mais c'est que je suis un peu... Je sais pas comment le prendre, le film, parce que je te disais ça, Paul, à la sortie, c'est je sais pas avec quel degré d'ironie ou d'auto-réflexion le film a. T'sais, c'est-à-dire,
ouais, c'est ça, je me demandais aussi.
Je sais pas c'est quoi
d'accord.
Le niveau. Y en a-tu ou y en a pas du tout?
Ça a l'air de se prendre vraiment au sérieux, mais il y a des bouts où je me disais ça se peut pas, là.
Non,
c'est
exact.
Comme un peu too much. Ouais, je suis pas d'accord avec cette citation-là, Pascal.
Donc, ça en fait une espèce d'objet mystérieux. J'aurais envie comme d'en parler avec les créateurs, mais je dis ça d'une façon positive. Je pense que c'est une espèce d'énigme, c'est un drôle de... drôle d'objet. Puis moi, en fait, la dernière fois qu'on s'est parlé, les gars, première moitié de Fantasia, j'étais un gros zéro, je n'avais pas vu aucun. Là, finalement, j'en ai vu 5, puis je te dirais que peut-être que des 5 que j'ai vus, ben, coudonc, je pensais pas nécessairement à la sortie de la salle être aussi enthousiaste que peut-être que je le suis maintenant quelques semaines plus tard, mais je pense que ouais, c'est peut-être le meilleur film que j'ai pu voir des quelques films, hein, de la poignée de films que j'ai vu quand même, mais c'est ouais, c'est peut-être la proposition la plus forte que j'ai vue à Fantasia cette année, fait que ouais.
Hey, puis juste pour bifurquer, là, on n'a pas reparlé, mais je sais pas si t'avais fini, Paul, là, mais...
Non, ben vas-y.
Moi, en fait, c'est juste, je voudrais vous entendre parler de Cocody Cocoda qui a gagné le prix de la QCC. Mm-hmm. Je sais que Pascal, t'as eu des problèmes avec le film, mais on a comme pas reparlé direct à la sortie. Ouais. Fait que...
Ça, c'est un film ultra délicat, puis je sais que j'ai un de mes collègues à la QCC qui trouvait le film ignoble, tu sais, comme
ouais.
Que c'est un affront, puis qu'il en revient pas que ça gagne un prix, tout ça.
Ouais.
Donc, Cocody Cocoda, synopsis rapide, un couple perd sa fille, là, c'est comme l'introduction du film, là, c'est pas vraiment un spoiler. Donc, perd sa jeune fille, et donc, évidemment, sont bouleversés. Et il y a comme une espèce de saut temporel, on ne sait pas exactement combien de temps ça passe, mais ils vont faire du camping. Et dans le fond, tu vois qu'il y a encore une tension entre eux, tu vois que c'est vraiment plus ce que c'était l'ambiance, évidemment. Là, et ensuite, sans trop vouloir dévoiler, mais les choses ne tourneront pas très bien au camping. Et je pense que je peux arrêter le synopsis là, parce que le film est quand même assez... novateur au niveau formel, puis je pense que ça vaut peut-être la peine de laisser les gens le découvrir pour ceux qui voudront le voir d'eux-mêmes. Mais c'est vraiment un film qui est comme en plusieurs parties, qui est sur plusieurs tons, qui utilise plusieurs genres différents.
Mm-hmm.
Et c'est ça, qui est sur le thème du deuil et puis de comment on peut passer au travers du deuil.
Ça se vit comme un essoufflement, ce film-là, tu sais, parce qu'il y a effectivement quelque chose de très cyclique, là, sans révéler rien, là, mais tu sais, il y a un feeling... circulaire, disons, qui à mané, on est en droit de se demander, OK, où est-ce que ça s'en va? Puis
est-ce
qu'on
a un payoff, là?
Ben exactement, c'est ça, c'est qu'avec une structure telle, on est comme en droit un peu peut-être d'exiger quelque chose en retour. Puis c'est un peu ça, mais écoute, c'est dur d'en parler de ce film-là. Il y a plein d'affaires qui sont extrêmement bien faites. T'sais, je veux dire, mettons, la soundtrack, elle est superbe. Il y a comme un genre de comptine. Tu sais, c'est un film suédois, c'est une coproduction Suède-Danemark. Puis... tu sais, un genre de comptine qui est très obsédante, puis qui est réarrangée à plusieurs sauces, puis que même jusque dans le générique de fin, puis on sort en fredonnant l'air du film. Donc, puis ça, c'est extrêmement bien fait. Il y a des séquences d'animation dans le film qui sont très, tu sais, qui rappellent un peu Lotte Renegger, là, tu sais, quelque chose de très primitif, mais en même temps, ça force...
Des jeux d'ombre, fait, c'est des jeux d'ombre très basic, là.
Exactement. Mais ça force l'interprétation métaphorique. Mais je pense que à Mané, il y a tellement un effet de surenchère au niveau de sa structure, puis c'est que ça en devient tellement... Moi, je l'ai trouvé barbant, le film, là, je l'ai trouvé lassant, pour être bien honnête, si bien qu'à Mané, l'effort mental, je sais que je vais sonner super imbécile, là, mais je m'assume, là, on dirait que ça me prévenait mon effort mental, c'est-à-dire je voyais où est-ce que ça s'en allait, je voyais l'animation, je voyais le cycle, ça parle de l'effritement d'un couple, ok, super intéressant a priori, mais on dirait que je suis tellement affligé par le film qu'on dirait que l'effort mental, la surenchère d'effort mental un peu pour le décoder, j'avais même pas envie, on dirait que j'avais même pas envie d'y donner, donc je l'ai un petit peu condamné, là, je dois avouer, j'ai été quand même pas mal éprouvé par le film. Mais bon, on peut pas tous les aimer.
Juste hein. Avant, on sortait d'un film super léger, on sortait de Daniel Isn't Real, qui est comme un easy-going film. Là. Tu sais, c'est rien de... Ça réinvente rien, mais c'était ben sympathique.
Ouais,
là.
Bien
puis
après, fait.
Après, c'est qui ouais. Cocody Cocoda, puis il y a genre un enfant qui meurt dans les 10 premières minutes. T'es comme, oh, OK... That kind of movie,
là. Tu sais, un côté artisanal, là. Tu sais, il y a un côté, genre, shoot dans la forêt, pas de lumière, là. Puis on dirait que, je sais pas, on dirait... C'est peut-être effectivement le contraste avec Daniel Isn't Real, qui est pas nécessairement un film que j'ai adoré, mais tu sais, c'est un film qui est très slick, à défaut d'avoir d'autres adjectifs, là, tu sais.
C'est coloré, c'est...
Ouais, c'est ça.
Ouais, ouais.
Mais donc, on sort de ça, puis là, on est comme, OK, là, genre, je pointe ma DSLR dans la forêt, puis ça va donner ce que ça donne, là, au niveau de l'image, là. On dirait que... Dans d'autres contextes, ça me dérange pas, une esthétique un peu low-fi, et puis surtout que, comme je disais, on dirait que comme il y a tellement un gros travail de recherche musicale, puis tu sais, le film est clairement très compétent, tu sais, je veux dire, c'est pas juste comme une bonne étudiante qui sont allées filmer à tout hasard ce film-là, là, Cocody Cocody, là, c'est pas ça que je dis.
Mais... C'est intéressant aussi de son ancrage un peu dans un folklore qui, je sais pas à quel point est réel ou c'est un folklore inventé pour les besoins du film.
Oui, c'est
ça. Mais il y a quelque chose de le fun. On voit une espèce de petite boîte à musique en ouverture de film. Je disais à la blague, là, justement, à Pascal, quand on écoutait le film, que c'est comme un peu Midsommar, finalement, parce qu'il y a comme un peu l'espèce de même jeu sur des espèces de légendes folkloriques un peu kitsch qui deviennent horrifiques. Puis il y a beaucoup de parallèles à faire avec les deux films, justement, sur, entre autres sur l'effritement du couple et tout ça. Mais ça, quand même, ça donne une petite saveur de plus, je trouve. Ou peut-être que c'est peut-être que c'est juste de l'exotisme que je suis en train de faire parce que finalement, c'est juste parce que ça se passe en Europe et que c'est des têtes blondes, je sais pas trop. Mais il y avait quand même il y avait un univers assez singulier pour. Je pense que ça vaut la peine de le souligner.
Ah non, c'est sûr. À tout le moins, encore une fois, on est dans l'expérience. Donc, les expériences, tu vois, on les valorise. Donc, à tout le
mais
moins.
Mais comme Jessica Forever faisait également partie de la section Caméra Lucida, puis moi, tu vois, j'aurais plus donné à lui, mais je comprends tout à fait. Que Jessica Forever, c'est pas le genre de film qui fait de l'unanimité. Fait que j'imagine très bien un des membres du jury, genre, met son pied à terre, puis il est hors de question que je mette mon nom à ce film-là.
Puis que c'était qui dans la QCC, en fait? C'était-tu toutes les critiques qui votaient?
Non, c'est un jury là, formé pour l'occasion. Il y avait Donato Totaro, qui est professeur à Concordia. Ouais, ouais. Elijah Baron, qui écrit pour 24 images. Andrew Todd, qui est un nouveau membre anglophone, qui écrit pour Burt Movie Death, entre autres.
Okay.
Qui est basé à Montréal, donc voilà.
Ben ok, mais puis sinon, deuxième moitié, avez-vous eu un autre coup de cœur, peut-être juste pour finir, là, parce qu'après ça, on en a un gros à attaquer, là, mais toi Rémi,
oh my God,
sur
ouais.
les 36 000 films que t'as vus, quoi d'autre, quoi, qu'est-ce qui s'est marqué vers la fin?
Ouais, ben tu sais, en fait, moi, la deuxième moitié était plus un petit peu plus relax pour moi, là, surtout que j'avais toute la remise de prix, puis les projections de court-métrage. Tu sais, juste dire, Paul, surprise, mais tu vas avoir mon article annuel avec de 6 pages. Je l'ai quand même tenu, là, mon petit journal de bord, là, il est comme 4-5 lignes par film. Fait que vous allez pouvoir suivre sur la page Point de vue là, toutes les critiques que j'ai de tous les films que j'ai vus à travers le festival.
Cool.
Sauf les films québécois, parce que ça, c'est des zones... un petit conflit d'intérêt, disons, avec mon poste, là.
Mais avez-vous vu Aquaslash? Peux-tu juste vous entendre parler d'Aquaslash?
Je peux pas en parler.
Non? OK, c'est bon.
Je peux pas... Ben,
c'est parce que Rémi l'a programmé, parler, là. C'est un peu...
Ben, je l'ai pas programmé, parce qu'en fait, Aquaslash était pas fini. On l'a programmé parce que, de base, tu sais, Renaud Gauthier, il avait fait
Discopat. Ouais.
On a quand même un trust envers lui, là, qui allait livrer un film compétent, là. Fait que, pis t'sais, ça a été, bien sûr, ça a été sold out et plus. Pis c'est moi qui ai animé la soirée, mais t'sais, c'est, je veux dire, on l'aurait pris coûte que coûte, le film, là. C'est un film québécois, un gros film québécois trippant de même. Mais disons que j'ai mes réserves sur le film, là. C'est un bon film à voir en gang, à Fantasia. Mais la version qui a été présentée était pas terminée. Puis en plus, il y a eu des différents cuts. Il y a le producteur qui a fait un cut. Puis le Renault a présenté son cut qui est 20 minutes plus long que la version du producteur. j'ai pas vu l'autre version, mais d'après moi, ça amène quand même certains problèmes au niveau scénaristique. Tu sais, il y a du épicness là, dans le film, mais il y a des grosses lacunes aussi. Là, je vais laisser ça comme ça, disons.
Okay,
là,
non,
là.
Non, c'est bon, on n'en parle pas plus.
On s'en parlera hors d'onde, vous viendrez me parler sur Facebook. Là, mais...
Est-ce qu'on sait s'il y a une sortie en salle de confirmer ouais, ou on a une date?
Non,
ou
parce
chose?
Que le film est même pas fini, ouais. Fait qu'ils ne savent même pas encore ce qu'ils vont faire avec.
Okay, okay.
Parce que là, ce qu'on a eu n'était pas colorisé. Il y avait des shots d'effets qui manquaient. Le mix
le sang était pas jaune, l'eau était verte.
Mais il y avait des. Tu sais, nous a averti avant le film, il y a des bruits de sifflet, ils sont trop forts, bouchez-vous les oreilles. Là. C'était à ce point pas mixé. Là.
Oui, ok, quand même. Hein. Parce
ouais,
que moi, je sais que des fois. Les...
Comme...
Ouais. C'est une drôle de situation, non? Je veux pas rentrer dans les détails, mais c'est un. C'est-tu insatisfaisant un peu? On peut-tu.
Ben, moi, j'ai trouvé, là, ouais, parce que. C'était pas que. Tu sais, I guess qu'ils ont la matière pour faire le film, mais je trouvais que le film était pas rendu à son meilleur. Là. Mais tu sais. La scène qu'on attend avec les glissades d'eau qui tuent est vraiment cool, là, mais tu sais, c'est les Blood Brothers et Rémi Couture ensemble qui ont fait ça. Mm. Fait que, tu sais, il y a un beau payoff, là, on est c'est vraiment gore, c'est une bonne scène d'anthologie. Je dirais que le début est quand même solide, mais si c'est un film de 1h25, 1h30, puis le 50 minutes du milieu, j'étais... Je regardais un peu ma montre, là.
Mm-hmm. Bon. Ben, on va réserver notre jugement définitif pour la sortie finale.
Ouais, c'est ça. Je suis comme curieux de voir où ils vont aller avec le film, mais je pense qu'il reste encore du travail. Il reste encore à brasser des idées dans ce film-là.
Mais tu sais, faire un gros test screening dans le hall avec des 700... centaines de spectateurs, je sais pas, là.
Dans les screenings que j'étais là cette année, c'est le seul où vraiment on remplissait les sièges au siège près. Là.
Ouais.
On faisait rentrer du monde puis on divisait des groupes parce que c'était plein à craquer. Fait que c'est vraiment une vibe là, dans une salle. Puis juste avant, il y avait le film Cliché de Miguel Plante qui a été un méga hit. Là. C'était vraiment, vraiment cool. L'ambiance, là, ça a été un parfait starter pour la soirée. Puis le film est ultra punché, c'est rapide. Là, c'est une parodie de slasher dans le bois, dans un chalet. Puis ça joue sur tous les codes du slasher. Puis c'est vraiment bien fait, puis c'était vraiment fait pour la crowd. Fait que j'ai l'impression que ça a parti fort en plus avec le court-métrage. T'sais, ça a été comme un gros trip de gang. Puis après, t'as le film qui commence, puis vite, ça s'est comme essoufflé dans la salle. T'sais. Fait que c'était comme... Je sais pas si c'était une bonne idée de tu sais, je comprends qu'ils voulaient, ils visaient Fantasia. Là, les gens qui font du film de genre au Québec, on veut passer à Fantasia. Mais peut-être que c'était un peu trop tôt pour une sortie du film.
Tu sais, Fantasia revient à chaque année. Là, tu sais.
C'est ça. Mais peut-être qu'ils avaient peur de brûler leur première ailleurs ou je sais pas. Là,
En même temps, je veux dire, ça s'est décidé il y a longtemps. C'est pas comme si c'était la veille que là, ils ont dit, on va jouer à Fantasia. T'sais, donc,
ouais, mais...
quand t'as un échéancier, peut-être que tu dis, je pense qu'on va être capable. Tu sais, genre, je veux pas qu'on parle pour les producteurs,
non,
pour l'équipe
du
film.
Ça,
peut-être qu'eux croyaient vraiment qu'elle allait être capable de rentrer dans les temps.
C'est ça. Puis, tu sais, pour vous donner un peu de coulisses, Aquaslash, au début, on pensait même ouvrir le festival avec. C'était prévu. Puis. Les producteurs nous ont dit le film est pas prêt, là, on a besoin du mois pour travailler. Fait que ça. Ils savaient qu'ils allaient travailler fort, disons, en juillet pour arriver à la première. Là. Puis moi, je l'ai vécu l'année passée, là, un film pas fini pendant le festival. Là, l'enfer. Là. Montréal d'Éden, je l'avais livré 4 jours avant la première. Là, puis c'était vraiment trop. Là, c'est la pression de savoir que tu joues dans le hall avec tout ce monde-là. Fait que tu sais, c'est. Je veux dire, ça va, là, on verra ce que ça donne. Je pense qu'ils ont du bon matériel puis ils s'en vont dans la bonne direction. Mais c'est difficile de parler du film quand il n'est pas fini.
Mm-hmm. Bon, parfait. Donc, ça fait le tour de notre couverture cette année du festival Fantasia.
Je veux juste une petite affaire aussi. Je veux juste féliciter. C'est un de nos amis. Puis moi, je suis pas dans le jury, là, fait que j'ai rien à voir avec ça. Mais Santiago qui a encore gagné cette année, deux années consécutives.
Trois prix
week-end.
Cette année. Hein?
Mm-hmm. Ben, trois prix, oui. Il y a Dominique qui a gagné meilleure productrice. Productrice émergente, en fait, pour le film. Puis prix du public, meilleur court-métrage québécois. Ouais.
Ainsi que le prix Ma TV, je pense.
C'est très, très mérité. Là. Je suis tellement content je suis vraiment content pour lui qu'il ait eu tout ça. Puis l'année passée, il l'avait eu avec Milk. Fait que c'est comme bravo, man. High five.
Ouais,
c'est vraiment cool. Là.
Ouais. Ça veut dire là, que s'ils nous écoutent Santiago, là, que son prochain film, même si la colo puis le son n'est pas fait, ça peut jouer à fond.
Ouais, c'est tellement pas son genre.
Oh my god.
Non, ça se passera pas. Ouais. OK. Ouais, parfait, on parlait évidemment du court-métrage Red Wine, là, on l'a nommé
parce que c'est un
ami, mais c'est ça, Santiago Mangini, puis le court-métrage chez Red Wine, film de 20 minutes là, quand même, là, qui en jette aussi une production assez impressionnante là, au niveau...
Ouais, que je pensais même pas avoir à Fantasia au début parce que je pense qu'il visait d'autres festivals, je sais pas trop, puis ça a été comme... Moi, je closais ma programmation, puis il était pas dedans, là, puis finalement, il me l'a envoyé. Puis là, il a fallu que... Tu sais, il faut que tu réorganises. Là, c'est un film de 24 minutes ça, là, à faire fitter dans un horaire. Fait que, tu sais, même sur le coup, j'étais comme, hey, je sais même pas. Là, si je peux, tu sais, c'est trop too late, là, malheureusement. Finalement, j'ai réussi à le squeezer. Puis bon, il remporte les éloges du jury. Là, donc, high five!
Bravo, bravo.
Il a gagné son pari. Parlant de gagner son pari, les gars.
OK.
Le cinéaste américain, l'enfant terrible, le plus européen des Américains ou le plus américain des Européens, en tout cas, c'est une façon de voir les choses, que Quentin Tarantino nous présente son 9e long métrage, Once Upon a Time in Hollywood. Alors,
je peux-tu commencer avec une liste?
Hey, j'en sors, moi.
Je vais commencer avec une liste. Top 9 des films de Quentin Tarantino selon Pascal Plante. Je peux-tu faire ça?
Ouais, vas-y.
Je vais commencer par le numéro 1.
Okay.
Même si des fois, c'est plus fun de commencer par le numéro 9, mais je vais y aller de 1 à 9. Vous allez voir pourquoi que je fais ça.
J'ai l'impression qu'on va spoiler un peu la review. Là.
Bon. moi, mon numéro 1, c'est Kill Bill. Je trouve que c'est son plus dévergondé. C'est là où il est devenu complètement hors de contrôle, puis pour toutes les bonnes raisons, c'est là où je trouve que c'est Tarantino à son plus contagieux. Il te fait aimer ses références, tu sais.
Ah, c'est tellement le fun.
Ce qui n'est pas nécessairement le cas de d'autres films, on y vient.
Tu merges-tu les deux ensemble? Ou tu...
Ouais. Kill Bill, The Whole Bloody Affair.
Ouais, OK.
Mon deuxième, ce serait Pulp Fiction, ben pour les raisons évidentes, là, je pense que... Oui. Hein, puis, film très, très influent, s'il en est un. Mon numéro 3, Inglourious Basterds. Moi, je trouve que c'est vraiment, vraiment un de ses meilleurs. Dans ses films épiques, ses grosses fables, ses gros fantasmes, son revisionnisme historique...
Je suis avec toi.
Moi, j'adore Inglourious Basterds. Il est très, très, très maîtrisé aussi, la scène d'ouverture, je veux dire. Il est capable d'être en retenue, puis il est capable d'être... comme juvénile, puis gory, puis que les deux fonctionnent sans se clasher, finalement. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup Inglourious Basterds. Voilà. Numéro 4, je dirais, pour Reservoir Dogs. C'est un de ceux aussi qui a un des meilleurs replay value. Il est plus court, je sais pas. C'est juste un film cool. Reservoir Dogs. On comprend pourquoi il est arrivé en défonçant la porte d'entrée. Numéro 5, Jackie Brown, un film qui, j'ai l'impression, gagne de un genre de statut culte. Hein? J'ai l'impression que il y a pas grand monde qui ont des choses négatives à en dire de Jackie Brown, sans nécessairement être son plus éclatant. C'est un de ses plus matures, une de ses mises en scène les plus adroites, je trouve.
Sauf la caméra qui spinne autour des personnages.
Ouais, mais ça, on s'y habitue. C'est moins pire que dans Deadproof. Là, il y a une petite marche, parce que ça, c'était mes 5 que j'adore.
Okay.
Là, il y a une petite marche.
Moi, attends, Pascal, juste dire, à date, là, on est presque 5-on-5. Il y a genre, je pense que je mettrais Pulp Fiction au-dessus de Kill Bill, mais c'est comme barely, là, tu sais. Mais je suis pas mal avec toi sur tous ces choix-là.
Bon, ben, quand. Après ça, c'est là où que c'est ça, là, le deuxième moitié. Bon, moi, Hateful Eight, j'étais un de ceux qui l'avait aimé. Avec des réserves, mais quand même, je trouve que... Ouais, Hateful Eight. Numéro 7, Deadproof. Numéro 8, Django. Numéro 9, Once Upon a Time, 3 petits points in Hollywood. OK.
High five, Pascal.
Est-ce qu'on peut parler de ce désastre, s'il vous plaît, mesdames et messieurs?
Oh my god.
Avant qu'on commence la discussion, j'aimerais juste faire un petit préambule pour un peu du inside baseball, de comment ça marche dans les coulisses de point de vue. Mais, fait que là, c'est ça, je suis allé voir avec ma copine le Once Upon a Time in Hollywood, je pense la journée que c'est sorti ou le lendemain, je sais plus trop. J'avais vraiment hâte de voir ça, tu sais. Je suis gros fan de Tarantino. Puis on est de la génération Tarantino.
Oui, mais c'est surtout
moi,
ça.
Moi, je suis grandi avec le cinéma de Tarantino.
Exact.
Ça a été une de mes premières réponses quand on me demandait c'était quoi ton cinéaste préféré. Ça a été un des premiers, mettons.
Ouais, c'est classique.
J'ai l'impression que j'en ai découvert plein d'autres depuis, mais tu sais. tu sais, la génération avant nous, peut-être, c'était Spielberg. Nous, c'est Tarantino, clairement. Puis la prochaine, je sais pas c'est quoi, je sais pas si c'est Nicolas Winding Refn ou peu importe qui. Mais c'est ça. J'ai vraiment l'impression qu'on est la génération Tarantino, puis que c'est pour ça qu'on a tous vu tous ses films.
Oui, c'est ça.
J'ai également vu son segment de Four Room. J'ai également vu son spécial double épisode de CSI, qui c'est comme une espèce de pratique pour Kill Bill. Tu sais, je connais beaucoup le bonhomme. J'ai lu ses entrevues, tout ça. Gros fan.
Ouais, ouais.
Et là, je m'en vais voir le film, puis là, je suis comme. Là, je vous texte, puis là, je me dis. Est-ce que je leur dis, genre, quelque chose, ou est-ce que je les prépare, ou est-ce que je garde mon opinion pour moi? J'ai failli vous dire, genre, j'ai hâte qu'on en parle, mais là, j'ai juste dit, bon, j'ai vu le Tarantino, tout ça, ce serait cool qu'on en parle au prochain épisode.
On s'en est pas parlé, hein, personne.
Moi,
hein,
je sors de là, les auditeurs, avec là. Ma copine aussi, ouais, je sors de ça. Là.
On s'en est pas parlé.
De
quelques jours plus tard, Pascal me dit, ouais, Pascal nous répond, puis là, Pascal est comme, j'ai vu le Tarantino, j'ai hâte de vous en parler. Puis là, Rémi, tantôt, il dit « Je sors du Tarantino, j'ai hâte d'en parler. » Puis on dirait que personne n'en osait dire quoi que ce soit, non. Mais je pense qu'on est peut-être un peu sur la même longueur d'onde.
J'ai mis « What the fuck », par exemple. J'ai mis « What the fuck ». Tout
a mis « What the fuck ».
Mais « What the fuck » peut être dans les deux bars, ouais. Dans un sens.
Ouais, chez Tarantino surtout, tu sais, tu sortirais d'Inglourious Basterds, tu dirais « What the fuck », tu sais, avec une finale comme ça, ouais, ouais. Puis tout ça. Mais effectivement. Bon, OK, fait que...
Donc, synopsis rapide.
Fait que, mais Paul, toi, c'est ouais. Positif ou négatif?
Ben on va en parler, mais pour moi c'est son pire film de loin.
Ah ouais, de
loin. Ah yeah, ok, j'avais tellement peur d'être seul dans mon coin. Quand vous en parliez, j'étais comme oh non, si je vais m'ostiner avec eux là. Moi je suis vraiment le craqué là.
Ceci dit, c'est pas un désastre. Je pense qu'il y a plein de belles choses. Je pense qu'il y a plein de choses à apprécier.
Il y a des belles scènes parce que c'est ce que c'est. C'est juste un amas de scènes décousues. Je veux dire, ben fais le synopsis, mais après ça on peut attaquer.
Si y a un synopsis. Là, pour vrai, il n'y a pas grand chose. Un film de 2h45, c'est quoi le synopsis? Ça faisait 45 minutes, puis je regarde ma blonde, puis je suis comme, c'est quoi le drama dans le film? C'est comme, il y a une affaire claire dans tous ces films, puis là, j'étais juste. Qu'est-ce qui se passe?
Non. Mais c'est un film qui a des défenseurs. Hein. Notre collègue et ami Kevin Laforêt à Extra Beurre, lui, il a donné 5 étoiles. Puis pour lui, c'est le meilleur Tarantino. Puis il est allé voir plusieurs fois déjà.
Wow.
Puis il trippe sur le film. Donc, tu sais, c'est pas un film, c'est pas un échec total où la critique est unanimement mauvaise. Il y a clairement, je pense,
non,
des choses dans le film.
La critique est excellente, en fait. Puis c'est pour ça que des fois, je me demande si je suis comme saine ou si je me suis brûlé à Fantasia en voyant 30 films. Puis là, je suis comme complètement numb, là, tout peu.
Puis aussi, j'ai partagé sur ma page Facebook là, un article sur du American Cinematographer, toujours comme une référence incroyable pour tout ce qui est direction photo.
Ben oui,
Une longue entrevue / making of avec Robert Richardson, qui est un peu le directeur photo attitré de Tarantino depuis longtemps. Qui est, selon moi, un des plus grands directeurs photo américains vivants, là, clairement. Et la manière que c'est fait, ce film-là, c'est vraiment impressionnant. C'est un film à gros budget. Tarantino et Richardson se font plaisir. Il y a vraiment plein d'hommages, puis de trucs et de défis de photos dans ce film-là. Donc ça, même si vous n'avez pas aimé le film, je vous conseille d'aller lire l'article, c'est quand même assez impressionnant.
Ben c'est oui, puis la direction artistique, je veux dire, c'est comme il est bambé sur les chars, puis j'imagine que Tarantino, dans tout son geekiness juvénile, il est comme ça, c'est telle voiture de tel film, c'est telle référence, mais ultimement, on peut un peu s'en crisser. Ouais.
Mais
tu sais...
Ben, c'est comme tous les films dans le film, là, tu parles de défis de photo, ça devait être ça, là,
ouais,
l'utilisation des pellicules, puis de... Parce que ça a vraiment l'air des vieux films d'archives avec
film
DiCaprio.
Film et émission de télé.
Mais les films dans le film, j'ai plus le goût de voir ça que de regarder le film lui-même.
Ben, c'est ça, regarde.
C'est ça l'affaire.
Donc,
là.
C'est ça.
Synopsis.
On est en 1969, Hollywood change, et c'est l'histoire de Rick Dalton. C'est un acteur qui est un peu sur le début du déclin de sa carrière, qui multiplie les apparitions dans les westerns et les émissions de télé un peu de seconde zone. Et c'est sa relation d'amitié avec son acolyte Cliff Booth, qui est son doubleur, son cascadeur. Et dans le fond, dans un Hollywood qui est sur le point du gros changement. Et là, peut-être Astérix, pour ceux qui ne connaissent pas trop l'histoire d'Hollywood et tout ça, mais 169, qui a eu notamment le drame du culte de Charles Manson, ouais. Et des meurtres de Sharon Tate et compagnie. Mm-hmm. Bon, ça fait partie de l'histoire, et de la véritable histoire avec un grand H. Et ça, c'est un peu des informations qui sont un peu cruciales à posséder, cette connaissance-là, avant d'aller voir le film. Comme ma copine était vraiment pas au courant, puis était vraiment mélangée, comme en sortant, puis elle me posait plein de questions.
Ben, je comprends,
mais le film fait le pari que t'es au courant de ça.
Ouais.
Est-ce que c'est un pari qui est réussi et qui a lieu d'être? Je le sais pas. La question est en l'air. Mais de la même façon que Inglourious Basterds supposait que tu connaissais la Deuxième Guerre mondiale et le fait que qui est Hitler et qu'est-ce qui s'est passé et puis tout ça, ben, ce film-là fait le pari que tu sais c'est qui Charles Manson, tu sais c'est qui Sharon Tate, et Roman Polanski et compagnie.
Ouais.
Donc ça, c'est le synopsis. Ensuite, l'appréciation, là, on a déjà dit qu'on n'était pas trop d'accord. Qu'est-ce qui cloche, Pascal? Qu'est-ce qui fait que ce film-là n'est pas dans, plus haut dans ton classement?
Non, mais comparons-le. Je veux dire, Kill Bill, OK, tu sors de ce film-là, t'as envie de voir les 10 Snowblood, t'as envie de voir, tu sais, toutes les... dans Kill Bill 2, t'as envie de revisiter tes Western Spaghetti. Je veux dire, c'est contagieux. C'est son amour est contagieux, puis il est imbriqué dans une ride qui est vivante, qui a du sang dans les veines. Once Upon a Time in Hollywood, je veux dire, certains vont dire que c'est un film mature. Si c'est ça, mature, si j'aime mieux être mort, man, parce que ça a pas de pouls, tu sais. Je veux dire, pis ça, pour moi, là, c'est l'équivalent, là, tu sais, de la personne, là, socially awkward. Tu sais, mettons, entre nous, là, on fait un podcast de cinéma. Fait que, tu sais, comme, quand on est nous trois, on geek out, on parle de films à fond. Mais, tu sais, comme, moindrement qu'il y a des gens un petit peu moins extrême cinéphile que nous à une table, ça va, là, tu sais, on peut doser notre jauge, là, de geek, là, tu sais, ou de socialement, mais Tarantino fait pas ça, je veux dire, puis tu sors de Once Upon a Time in Hollywood, est-ce que t'as envie de voir un traître film, tu sais, t'as envie de voir un western de Sergio Corbucci, pas nécessairement plus que non, tu sais, juste non, puis, fait non seulement ça, mais en plus, c'est... C'est, il est vraiment bandé sur sa direction artistique, sur ses faux posters, sur ses faux...
Ouais, c'est les plans, les voitures, plans sont toujours cadrés pour le voir en entier. C'est pas, ça fait pas partie du décor. C'est son sujet qui est filmé.
Exactement,
là.
Exactement.
Tu sais, les cannes de bouffe à chien, là, genre, que là, il y a comme des close-ups non-stop sur les cannes pour qu'on voit qu'il y a des... Tu sais, dans Pulp Fiction, ça faisait partie de l'univers.
Ouais.
Tu sais, c'était pas comme « Ah, check ça, j'ai inventé une marque, là. » Il nous le montre, là, non-stop.
Ben, tu parles de certains qui le qualifient de film mature. Moi, je trouve que c'est un film vieux, en fait.
Ouais, ben c'est ça. C'est là où je m'en allais.
Puis je trouve aussi que c'est un film qui est un peu facile, entre guillemets. Tu sais, dans le sens que... Parce que, bon, pas facile dans le sens que c'est une grande production ambitieuse, puis ça prend quand même des années derrière la cravate pour réussir à faire un tel projet, mais... De prendre Leonardo DiCaprio puis de lui offrir un rôle d'acteur qui a une mauvaise passe puis qui commence à douter dans ses moyens puis là il redevient bon, pour moi c'est du casting évident. De prendre Brad Pitt puis de donner le rôle du beau bonhomme cascadeur qui fait rouler les yeux des filles, c'est du casting un peu évident.
Margot Robbie après Wolf of Wall Street.
Margot Robbie comme belle blonde idéale que tout le monde admire, c'était évident.
Ouais, c'est ça.
Alors que dans tous ces autres films, là, le casting était astucieux, ça faisait revivre des carrières. Puis comme, mettons le rôle de Christoph Waltz dans Inglourious Basterds, peut-être le meilleur rôle qu'il a écrit, mais je veux dire, il y a plein d'autres rôles badass. Là. Mais tu sais, c'est qu'il a vraiment écrit un personnage incroyable et puis il s'est donné le défi de trouver l'acteur qui serait en mesure de le relever. Là, on dirait qu'il y avait Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, puis un peu écrit des rôles qui leur convient, tu sais. Mm-hmm. Puis c'est là que je trouve que c'est un film qui est paresseux un peu, puis vieux.
Ben, Leonardo, j'avais le feeling qu'il était comme absent un peu dans des scènes. Je savais pas qu'il avait l'air comme... Tu sais, d'habitude, il donne son 100%, puis je trouvais qu'il avait l'air comme de je sais pas, là, de tune in sur le film, puis on va faire ça, là, mais je le sentais pas comme investi dans un personnage comme d'habitude, là. Je sais pas, j'avais comme un feeling, tu sais, il est bon, là, ben oui, il est bon, Leonardo, mais j'avais comme pas le feeling que ça changeait des autres personnages qu'il a fait, ou ça avait pas l'air de le mettre au défi ben, là, il avait pas l'air...
Alors, c'est ça, alors que le propriétaire de la maison Candy, là, dans Django Unchained, ça, c'est un beau rôle de composition.
Ben oui.
Puis, tu sais, en beaucoup moins de temps écran, en beaucoup moins de scènes, il me semble qu'il est tellement plus mémorable. Puis, je parle un peu de paresse, puis un peu de facilité. Puis, c'est pas juste au niveau du casting ou même du scénario, mais même au niveau, tu sais, c'est vraiment un cinéaste qui nous habitue à avoir des grands moments de cinéma, puis des plans mémorables, tout ça. Puis, même là, j'ai l'impression que j'en ressors après quelques jours, puis pas grand scène vraiment qui m'ont allumé. Tu sais, je trouve
que c'est assez mou, là.
Mais même la finale, on dirait que c'est comme un électrochoc juvénile après un long 2 heures de gens qui écoutent la radio en se promenant sur Los Angeles.
Ça a l'air de lui qui fait genre checker comment c'est cool. Checker, je vais être cool.
Non, mais c'est bon, ça soundtrack.
Je le vois tellement, l'hostie.
c'est sûr que, comme, je sais pas, moi, c'est sûr que c'est payant, les costumes, la musique, les voitures, tout ça, tu sais, mais ça n'en fait pas un film. Tu sais, moi, là, quand j'entends des histoires que Tarantino, là, il a mis son scénario dans un coffre-fort pour pas que ça leak, je suis comme, man, c'est ça que te mettre dans un coffre-fort, là, ça aurait pu leaker, là, c'est pas bien grave, là. Tu sais, parce que, non, mais à vouloir dire, c'est juste comment que les acteurs rendent les scènes, tu sais, oui, il y a certaines scènes qui sont effectivement, moi, Rémi, je trouve quand même que les acteurs font une bonne job considérant.
C'est sûr qu'ils sont bons.
La bromance passe bien. Pour moi, une des scènes la scène qui m'a peut-être la plus captivée, sans révéler, sans divulgâcher, là, c'est pas une scène. De toute façon, qu'est-ce qu'il y a de vulgâcher? Mais tu sais, c'est. Il est sur un plateau de télé d'un western, puis il y a comme une scène où il acte finalement avec une petite fille, là, tu sais. Puis.
C'est mon personnage préféré du film, la petite fille, je pense.
Ouais. Non, c'est ça. Elle a sans ça. Ben oui, elle est super aussi.
Elle a de la substance aussi, puis elle fait quoi, là? Je sais pas. Elle est là pas longtemps, mais c'est un des meilleurs personnages du film, sérieux, là.
Ben oui, non, absolument. Je suis 100% d'accord. Mais disons, tout ce moment-là, ça, pour moi, c'est un highlight. Tu sais, il y avait comme des scènes. Tu sais, je veux dire, si je voulais voir un film d'Harmonie Corinne, j'irais voir un film d'Harmonie Corinne. Tu sais, je trouve que quand Tarantino essaie de faire l'espèce de structure informe, scène à scène, ça vire en sketch, en fait. Parce que il intercale avec des jeux temporels qui sont vraiment datés, là.
Des montages weird. Il y a genre deux scènes montées en jump cut, tu sais, c'est comme... Oui. C'était vraiment bizarre dans ce film-là.
Puis un humour douteux aussi, tu sais, je veux dire... On est rendu, je sais que le film se passe il y a 50 ans, ça peut excuser tellement d'affaires, mais tu sais, au final, là, tu sais, je veux dire, comment dire, t'as... là, je sais que je rentre sur un terrain glissant, là, mais pour moi, là, ça fait vraiment l'éloge de quelque chose qu'on mériterait pas tant qu'on en fasse l'éloge, là, tu sais, d'une certaine façon, tu sais, c'est le Hollywood de cette époque-là, était-il... un âge d'or? Était-il un endroit où il faisait bon vivre? Peut-être que c'était un dude blanc, justement. I guess que c'est un peu, effectivement, le ce que le film avance, là, tu sais. Puis le grand drame, s'il en est un, c'est justement un acteur qui devient obsolète, mais dans un monde où il est un héros par défaut, fait que c'est pas un drame, genre. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme, pour moi, j'ai jamais senti un...
que c'était dramatique. Il n'y a jamais été vraiment danger, là, tu sais.
Que Leonardo DiCaprio soit comme, devienne... irrelevant? L'était-il? Ouais, pis, l'a-t-il pis... déjà été? S'il le devient, pourquoi? Why do I care? Tu sais, un peu. Je sais pas.
Puis j'ai l'impression qu'il a centré le film autour de ces deux personnages les moins intéressants du film.
Peut-être.
Tu sais, comme, mettons, il y a une espèce de... Il y a beaucoup de hippies, là, tu sais, qui, on comprend, font partie de la secte de Charles Manson, tu sais, puis qui naviguent à travers tout ça. Puis eux, à la limite, je les trouve comme plus intéressants, mais des fois, c'est quasiment comme des punchlines, tu sais. Puis il y a une espèce de... Puis je sais là, que Tarantino a écrit des bons rôles de femmes, puis que tu sais, c'est vraiment comme un cinéaste à ne pas négliger, mais dans ce film-là, c'est pas juste parce que c'est un film d'époque, mais il y a un petit... Il y a vraiment un côté voyeur, puis genre un peu comme... fantasme d'adulte, genre de c'est quoi Hollywood, là, comme Brad Pitt qui offre de faire un lift à une petite hippie, puis qu'elle demande si c'est correct, si elle peut le sucer, pis ça, puis je suis comme, ouais, c'est ça, puis genre, puis plein de plans de pieds aussi, là,
ouais, c'est ça, sait à c'est quel exactement point, cette scène-là, là, genre les pieds tempés dans vitre, là, puis c'est comme au premier plan, puis c'est comme Tarantino qui est comme, bon, il y a eu plein d'articles écrits sur le fait que je tripe ses pieds, fait que fuck off, je vais en mettre avec toutes les scènes, ouais. Là, genre, il y a tellement de pieds. Ouais. Là, dans le film, mais c'est
mais
comme
faut quand même se rappeler
weird,
que, tu sais, dans Jackie Brown, il y a quand même, mettons, la fille qui, out of the blue, demande à De Niro, genre, tu veux-tu me fourrer, puis là, comme, tu sais, il y a four sur le coin d'une table, puis après ça, c'est fini, là, tu sais, je veux dire, il y a eu un peu de ça, sauf que, au moins, dans Jackie Brown, tu sais, je sais pas, t'as le personnage de Pam Grier qui contrebalance, il y a tout le temps comme quelque chose qui contrebalance, tu sais, il y a cette espèce, il y a ces fantasmes-là qui ponctuaient ces films à droite à gauche, bon.
Ouais, puis c'est un cinéma qui est fantasmé, parce que c'est pas la réalité, là, on est clairement dans un Hollywood qui a jamais existé. Mais en même temps, c'est qu'il va comme... Parce que dans tous ses films, effectivement, comme tu le dis, Pascal, il met des références dans tous ses films.
Ouais.
Et que ce soit un hommage au cinéma asiatique, au western, à peu importe, tout son cinéma est imprégné de cinéma. Ce n'est que ça, finalement. Ben oui, c'est ben presque. Oui. Là, mais dans ce film-là, c'est que les références sont... Il n'arrive pas à nous traduire un peu l'obsession. Comme, ben par non, exemple, une des scènes les plus weird du film, à mon avis, c'est Margot Robbie qui interprète Sharon Tate, qui va se voir jouer dans un film. Et les images du film, c'est donc le vrai film avec la vraie Sharon Tate. Donc, t'as comme une longue séquence là, où Margot Robbie va... Tu sais, là, t'as des plans, des gros plans d'elle.
Il y a trois fois là-dessus, là.
Ouais, des gros plans d'elle qui sourit, puis qui est toute contente, puis qui te voit, qui entend les réactions du public, puis qui est toute contente. Puis là, tu passes à des images du vrai film avec la vraie Sharon Tate. Puis je suis comme, OK, il veut y rendre hommage, mais genre...
Ben, elle qui ramasse une pousseuse aussi, tu sais, comme plein d'affaires qui mènent à rien.
Puis en fait, dès le début, ça s'affiche que le parallélisme fonctionne pas. Il y a une séquence d'intro sur la musique, t'as les gars dans leur char, puis après ça, t'as comme genre Roman Polanski, puis Sharon Tate qui s'en vont à un party, je pense, là, tu sais, puis les deux sont montés en parallèle, puis je suis comme, pourquoi je vois Sharon Tate puis Roman Polanski? Comme, tu sais, on
ça
sait
sert à quoi?
Parce que comme tu dis, Paul, ça prend le pari que comme, oh, on est en 69, Sharon Tate, oh my god, tu sais. Mais ok, mais encore, tu sais, je veux dire, ce parallélisme-là, il est complètement foutraque, là. Il est vraiment éparpillé, là.
Ouais, puis tu parles de la musique, là, mais tu sais, un des plaisirs de Tarantino, habituellement, c'est que ses soundtracks sont iconiques parce que chaque tune fait partie du film. C'est important dans le film, puis représente une scène d'anthologie. Tu sais, Pulp Fiction, t'écoutes le soundtrack, puis tu vois le film. Là,
ouais.
On dirait qu'il y avait une playlist de genre 50 tunes, puis il met comme un petit bout de chaque tune. Tu sais, il y a une scène où Brad Pitt est en char, puis il y a 4 extraits de tunes dans cette petite séquence-là. Je suis comme, c'est quoi, là? T'sais, c'est quoi la musique que tu veux mettre?
Ben, puis à la limite, parce que le film, c'est ça, dans son côté très. Qui se promène, qui se balade là, d'une rue à l'autre, tout ça. Je pensais beaucoup à American Graffiti de George Lucas, un peu le même style de film où des jeunes en voiture, un autre film qui, même à l'époque, déjà était très nostalgique. T'sais. Mais dans American Graffiti, il y a un côté plus épuré puis plus pur qui fait que c'est comme plus cohérent, puis c'est un film pas mal plus réussi, selon moi.
Ouais.
Ça se passe pendant une nuit aussi, c'est comme un... C'est une petite histoire, American Graffiti. Là, ça couvre une nuit avec une gang d'amis, puis là, c'est comme...
Puis tu sais, un autre exemple de ce qui, pour moi, un peu démontre la paresse, puis peut-être même la perte de talent de Tarantino pour ce film-là, mais tu sais, comme, il y a un narrateur dans le film, OK?
Wow, my God.
Et à un moment donné, il se met vraiment à être plus intense et à nous expliquer, mettons, qu'est-ce qui se passe.
Après un six months later, là, aussi, là, tu sais.
Ouais.
C'est à la fin du film que ça se passe.
Puis ça, j'ai l'impression, il revient une couple de fois, puis à la fin du film, il est pas mal présent.
Il est là juste au début, puis à la fin, je te jure, parce qu'il a repopé à la fin, puis j'étais comme, qu'est-ce que tu fais là, toi?
Ouais.
On t'a pas vu, là.
C'est ça, puis on t'a pas entendu. Là. mais c'est ça, puis tu sais, le narrateur, bon, là, c'est un acteur célèbre là, qui fait la voix, là, fait que, I guess, genre, haha, trivia, IMDb de plus. Là.
Ouais, non, mais c'est ça.
Mais ça ajoute rien. Alors que, dans un, mettons, un Pulp Fiction, man, on allait d'une histoire à l'autre, on revenait dans le temps, et le spectateur n'avait pas besoin d'être guidé. Pourquoi? Parce que la mise en scène, le montage, les éléments du cinéma nous l'expliquaient de manière très limpide et... Pulp Fiction, pour toutes les prouesses narratives et temporelles, est un film ultra accessible qui a fait un grand succès à l'époque. Là,
mm-hmm.
Mais c'est dans ses paresses aussi, il y a tout ce qui est écrit à l'écran. Là, parce que quelques fois où il y a des trucs qui pop à l'écran qui ne reprend jamais, genre il y a une fois, Sharon Tate, elle arrive dans un party, puis là, tu as genre
Steve
les
McQueen,
noms des personnes présentes. C'est genre James Dean là, qui est là. Puis là, c'est écrit comme James Dean. Puis ça revient jamais dans le film. Il représente personne comme ça avec des titres à l'écran. Puis ça a vraiment l'air des titres lazy, là.
Puis là, tu dis, est-ce que c'est une référence à Inglourious Basterds où il y avait genre des petites flèches avec les noms des dirigeants allemands, puis tout ça. Puis...
Mais ça arrive une fois, puis ça sert absolument à rien. Tu sais, au pire, tu le mets pas, puis le monde, il catch que c'est James Dean ou il catch pas. Mais là, il nous oblige à faire comme, check, j'ai mis James Dean dans la scène. OK, mais pourquoi?
Mm-hmm.
OK, good. Next scene. Puis à la fin, il y a comme un chrono aussi à l'écran. Il y a comme une scène qu'il y a comme des heures de la journée. Ça arrive juste à la fin.
Puis là, le temps file. Moi, d'ailleurs, c'est ça. Là, j'ai comme un temps limité. Là. Mais c'est parce que là, je suis animé. Là tu sais, on peut-tu parler de l'hostie scène de marde avec Bruce Lee?
Ouais.
Ça, moi, pour vrai, j'ai pas. Je veux t'entendre.
Ah, man, moi, non. Là. Moi, je suis désolé. Ben, là.
Ça sert à quoi? Puis ça. À part de montrer qu'il est badass, puis tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de controverses parce que ça montre Bruce Lee comme un trou de cul, là.
Ben,
c'est un peu ça, là. Il l'a vraiment dépeint comme un asshole qui est plus. Qui vise
plus
haut.
À quoi
haut,
sert,
là, tout le monde,
narrativement, la scène? Elle sert à montrer que Brad Pitt, il est hot.
Il est fort.
Mais c'est ça.
Il est fort.
Tu sais, C'est constamment comme ça, tu sais, je veux dire, c'est de montrer, c'est ça, là, une espèce de suprématie du héros, là, blanc, là, pis tu sais, je sais pas, man, pis comme, tu sais, lui, il est problématique, A majuscule, là, P majuscule, là, peut-être plus, là, mais tu sais, genre, il a comme tué sa femme ou pas, là, tu sais, c'est un peu ça qui est avancé dans le film, pis c'est comme un punchline, c'est comme un gag, là. C'est comme, ha, il a tué sa femme, ça doit être parce que c'était une bitch. Là. Mais tu sais, comme, c'est pas tant drôle, c'est pas tant développé.
Ouais, c'est
pas
ça.
Tant, comme, quoi?
Il y a une scène, en fait, il y a une scène de flashback où tu le vois sur un bateau avec sa femme, puis il y a comme un harpoon gun. Puis c'est genre un mini flashback qui dure 30 secondes à peu près. Genre, la première fois qu'il parle que tu es sa femme, t'as ça. Puis après, tu reviens au film, puis tu revois jamais ça, t'en reparles jamais.
C'est comme un film où il y a plein de détails le fun, puis plein de références le fun, tu sais, pour, mettons, une troisième lecture. Mais la première lecture est ultra déficiente.
Mm-hmm. Ah, mais j'ai pas le goût d'aller le relire.
Non,
là,
c'est ça.
J'ai pas
le goût
de le revoir une deuxième fois. Là.
C'est comme un film où il manquait un premier draft, là, une première histoire narrative, genre intrigante. Puis je comprends que. Puis c'est un peu comme à l'image de Jackie Brown, c'est un film où on passe le temps avec les personnages, puis des personnages qui ont pas nécessairement des grandes vies, puis des. Parce que c'est pas tous les films qui sont des espèces d'accumulation d'improbabilités comme Pulp Fiction, tu sais. C'est correct, là, tu sais. Mais j'avoue que c'est ça. C'est un film qui, pour moi, c'est le mot qui revient, c'est paresse et je sais pas, quelque chose de vieillot, là, tu sais.
Pour moi, c'est socially awkward. Pour moi, là, c'est le gars qui débarque dans un party, là, puis qui essaye de out-geeker tout le monde, là, puis qui est désagréablement, genre, out of place, là. C'est vraiment ça, là. Tu sais, c'est genre, là, je suis à côté de des ingénieurs, là, puis des tu sais, puis genre, j'essaye de leur parler d'à quel point que, je sais pas, l'opening shot de Touch of Evil est épique, là. Puis genre, ils vont me regarder en me disant, mais ta gueule, là, tu sais. Puis moi, c'est vraiment ça que j'ai envie de dire à Tarantino. Dans ce film-là, même moi, là, je suis vendu, là. Je suis un geek, là, monsieur Quentin, là. Puis même moi, j'ai eu envie de te dire, là, de te la fermer des fois, là. Comme, ça, c'est à ce point.
Ouais, c'est un contrôle créatif total, là, qui fait que...
Donc...
Puis là, il dit qu'il va arrêter après son dixième. Fait que, est-ce que c'est une bonne chose, peut-être, là? Peut-être qu'il commence à s'essouffler dans ses sujets, dans sa réalisation. Puis c'est juste poche, parce qu'à date, c'était comme un peu un... Tu sais, c'est un parcours assez, assez incroyable, là, qu'il a fait, là. Puis là, c'est... je pense que, ouais...
Ben, c'est ça, ces cinq meilleurs films sont géniaux. Tu sais, je veux dire, il y a cinq, à mon œil, il y a cinq grands films à son actif. Tu sais, c'est plus que tellement de cinéastes. Il y a personne qui va y enlever ça. Personne va y enlever ça. Mais il se donne raison. Il se donne raison avec son espèce de prophétie du 10 films and that's it. Il vient de se donner raison. Tout le monde est, moi, j'étais comme, voyons, c'est un peu étrange. C'est comme, OK, il a peur de devenir obsolète. Il a peur de perdre la touch. Il sent qu'il a fait le tour. OK, ouais, non, je trouve pas, je sais pas.
Puis c'est,
on dirait que son neuvième film lui donne raison.
C'est d'autant plus ironique que son hommage au vieux Hollywood et au cascadeur était bien plus réussi dans Death Proof. C'était déjà un peu ce film-là.
Ah ouais.
Fait que bon, alors c'était le neuvième film de Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Rare avis unanime de l'équipe de Point de Vue, peut-être pas dans le sens qu'on aurait voulu. On va se quitter sur la bande-annonce de Cuba, Merci Gracias, tout petit film québécois qui mérite notre support, qui est sympathique au bout, de comme à peine une heure, qui sort sur les écrans le 16 août. Alors vous irez voir ça, c'était notre Point de Vue. Mon nom est Paul Andrew, j'étais avec mes collègues.
Et Rémi Fréchette.
Et Pascal Plante.
On est trop bien. On est trop bien, ouais. Comme...
Oh, brûlada! Estoy brûlada!
C'est comme beau dans un sens que tu tripes autant sur tes boules.
Hey, je tripe pas sur mes boules!
Oui, tu tripes sur tes boules!
Ah! Ben là! Oh! Avec un accent espagnol! Ben là!
Et moi, j'ai genre hâte d'avoir comme du sable dans mon maillot maintenant.
Ouais, je comprends. Ouais.
Je peux-tu avoir du sable dans le cul?
Ouais.
Il a dit, à la première soirée, on était comme, on capotait, genre. Là, on est là, genre.
On est là, on est trop à l'aise, on est avec de petits gars.
Mais genre, est-ce que tu ferais une dépression si tu ne fais pas cruiser pendant un an?
Et je m'en foutrais complètement.
OK. Mais quand ça arrive, pas, ça te plaît bien, genre.
Ben, j'aime ça, ouais.
Hey, aujourd'hui, moi, peut-être que je vais me promener comme un peu tout seul.
On dirait que t'as rien compris au voyage.
Non,
ailleurs,
je pense que j'ai plus compris.
Excuse-moi,
toi,
t'as rien.
Là,
non, ça, tu parles.
Ben, c'était juste genre des gros gars musclés qui voulaient te fourrer. Ah.